Créé il y a quelques mois, Horizon Golf a pour ambition d'aider les Français et les francophones à comprendre les milieux d'affaires des pays du Golfe. Pour ce faire, Rosiane Umbo-Monteverde, l'initiatrice de ce podcast, donne la parole à des professionnels francophones qui occupent des postes à responsabilité dans cette région en pleine expansion. Avocate de formation, Maître Rosiane Umbo-Monteverde est établie dans les pays du Golfe depuis 13 ans et y mène de nombreuses activités, notamment auprès des Français de l'étranger. Explication.
Bonjour, je suis Rosiane Umbo-Monteverde, avocate de métier et créatrice du podcast Horizon Golf, un podcast qui décrypte la vie des affaires dans les pays du Golfe telle qu'elle est réellement, loin des clichés habituels.
Alors pourquoi ce podcast ?
Ce podcast, il est né d'un constat et d'une forme de désolation, c'est-à-dire que je me suis beaucoup étonnée, je m'étonne encore toujours qu'en 2025 on puisse avoir des idées aussi caricaturales sur les pays du Golfe dans lesquels j'habite depuis plus d'une décennie, maintenant bientôt 13 ans, et il me tenait à cœur d'apporter un éclairage nouveau, qualitatif et plus concret sur la manière dont on mène une carrière internationale et dont on gère un business sur place.
Vous êtes élue des Français de l'étranger.
Tout à fait.
Vous êtes avocate de profession. Ça fait plusieurs casquettes. Est-ce que vous pensez avoir le temps de vous occuper de ce volet ?
Oui. Alors, je dois reconnaître avoir mis de côté ma robe d'avocate. Avocate un jour, avocate toujours, je serai toujours avocate quelque part. Mais c'est vrai que c'est une activité que j'ai récemment, très récemment mis de côté, afin de me consacrer pleinement à ce projet Horizon Golf. En plus, il est vrai, de ma casquette d'élu des Français de l'étranger, tout particulièrement à l'Assemblée des Français de l'étranger, où je représente les Français du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Ceci étant dit, le projet Horizon Golf est complémentaire, voire même distinct, puisqu'on est là dans le monde des affaires.
Comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que vous proposez comme service ?
En termes de service, pour le moment, je suis vraiment sur un média qui se veut informatif. Et puis, en fonction de ce que l'audience réclamera, alors on créera des services. J'ai déjà une petite idée de ce qui va m'être demandé, mais je préfère que ce pressentiment soit confirmé par le terrain, notamment en termes de conseils, des prestations de conseils, que ce soit en recrutement, que ce soit en installation de sociétés, notamment de profit de PME, voire même, pourquoi pas, quelques entités de grands groupes.
Vous voulez présenter les pays du Golfe, la situation des marchés telle qu'elle est réellement.
Tout à fait. En fait, l'idée, c'était de sortir de ces clichés habituels avec les influenceurs, les influenceuses, la vie facile, les millions, les milliards de la crypto-monnaie. Ces profils-là existent peut-être, mais ils sont loin de correspondre à la réalité de ce que j'observe, moi, depuis bientôt 13 ans de nouveau. Et mettre bien en avant le fait qu'il y a une compétition incroyable, le monde entier. Et dans les pays du Golfe, j'ai un de mes amis parlementaires qui dit souvent que le Golfe est un peu un épicentre de l'optimisme. Et c'est vrai que dans ces pays-là, on a souvent l'impression que tout est possible parce qu'ils sont dans un état de florissement, on va dire, économique, qui est très prospère. Mais cette prospérité a un prix, avec une très forte compétition, notamment avec les pays asiatiques, mais pas seulement. Les Américains sont là, les Japonais sont là, les Allemands sont là. Et nous, Français et francophones, comment est-ce qu'on se distingue ? Par où sont passés celles et ceux qui occupent des postes à responsabilité et qui y sont installés.
Ce podcast s'adresse essentiellement aux Français.
Et aux francophones. C'est la francophonie. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue que nous autres Français et francophones avons quand même une spécificité culturelle, une manière d'approcher la vie, de voir les choses et même de faire des affaires différentes des anglophones. C'est un pari, un postulat de départ. Au gré des interviews, je verrai s'il se vérifie ou non.
Vous êtes arrivé dans ces pays-là en 2013 ?
En 2012.
Est-ce que vous avez observé des changements depuis 2012 ? Parce qu'on parle des pays du Golfe, c'est devenu le nouvel Eldorado pour tous ceux qui veulent s'enrichir, faire des affaires et prospérer rapidement. Ça remplace le rêve américain d'il y a quelques années.
Est-ce que
vous avez constaté des changements et si oui, lesquels ?
Alors oui, moi j'observe bien évidemment des changements économiques, sociologiques, juridiques. Sachant qu'on est dans une sous-région, dans un des mondes arabes, et les Golfes, c'est 6 pays. C'est l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Qatar et Oman. Et donc ces 6 pays sont très différents. Et je me plais beaucoup à dire « same, same, but different », qui est une expression qui est très souvent employée par les Indiens, qui me mettait hors de moi quand je suis arrivée depuis Paris. Parce que je me dis, mais same, same, but different. Or it's same, same, or it's different. Mais ça ne peut pas être same, same, but different. Et actually,
mais en même temps.
C'est le fameux en même temps, tout à fait. Et il est vrai que ces six pays, ces six nations présentent énormément de points communs, mais ont aussi leurs différences, qu'elles soient culturelles, qu'économiques, dans leur approche, dans leur vision. Et donc, oui, j'ai observé des changements, notamment dans les pays avec lesquels je suis le plus en contact, Bahreïn, qui est ma maison de cœur, le Qatar aussi, pour qui j'ai une grande affection, mais également l'Arabie Saoudite, dont on entend beaucoup, beaucoup parler, les Émirats Arabes Unis également, dans leur spécificité entre Émirats, puisque Sharjah est différent d'Abu Dhabi, qui est différent de Dubaï, qui est différent de Jebel Ali. Donc oui, il y a des changements juridiques, des changements de vision, et il nous appartient à nous faufiler, savoir prendre la vague avec humilité, pertinence et malice. Il faut être malin et arriver avec des profits solides en réalité, parce que la compétition est telle qu'on ne peut pas s'improviser.
Et quels sont les secteurs porteurs si un francophone veut venir investir? Dans quel pays et dans quel secteur?
En réalité, presque tous les secteurs sont porteurs, j'ai envie de vous dire. L'hôtellerie, bien évidemment, les nouvelles technologies, beaucoup. Tout ce qui touche au développement durable, si c'est une région qui est très critiquée sur ce volet-là, moi j'ai mon opinion puisque je considère que d'autres pays ont bien peu de leçons à donner à cette région du monde qui n'est pas à l'origine de la situation catastrophique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, donc que chacun prenne ses responsabilités. Ce sont des nations qui s'intéressent sérieusement à ces enjeux, qui nous-mêmes en Europe, on a pris ça au sérieux un peu plus tardivement. Ce sont des nations qui sont jeunes aussi, il faut leur laisser le temps d'embrasser tous ces enjeux là, et elles le font déjà assez remarquablement. Les nouvelles technologies, bien évidemment, la banque et la finance depuis toujours. Alors Bahreïn a été un hub financier pendant très longtemps, donc c'est peut-être pour ça que j'ai spontanément cette approche-là. Le secteur de l'éducation, en fonction des pays, l'Arabie Saoudite a un marché formidable puisque c'est quand même le pays le plus peuplé parmi les six pays du Golfe. D'autres pays sont un peu moins peuplés, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a, au-delà des populations locales, les populations expatriées avec elles-mêmes leurs enfants. Et on trouve notamment un choix éducatif en français de plus en plus riche au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis bien évidemment, et dans les autres pays du Golfe. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités, il y a également énormément de compétition, et il nous faut être préparés, humbles, persévérants et assez observateurs.
Alors, quand vous parlez de choix éducatif en français, vous parlez essentiellement des lycées français?
Pas nécessairement. Il y a des lycées français, il y a des lycées d'enseignement en français. Il y a également, par exemple, les universités françaises, la Sorbonne Abu Dhabi, mais également la Sorbonne Qatar. On a HEC Paris également. Il y a cette école de commerce Schema aussi. Donc il y a de plus en plus d'établissements français. Je pense notamment à une école hôtelière Vatel qui est à Bahreïn, des établissements hôteliers suisses également, avec des enseignements qui peuvent se faire également en français. Donc il y a un marché et une volonté dans cette région du monde aussi de faire de la place à la francophonie dans toute sa diversité.
Ça veut dire que la francophonie progresse?
La francophonie progresse et il nous appartient à nous de la défendre. Elle progresse, mais elle est face à un mastodonte qui est tout le Commonwealth et ses fervents et dynamiques défenseurs. L'anglais reste et demeure la langue du travail et du business. Pour autant, faut-il abandonner le combat francophone? Je n'en suis pas convaincue et c'est la raison pour laquelle mon podcast est d'ailleurs en langue française.
Est-ce que la condition de la femme dans cette région peut être un frein?
Je vis dans cette région du monde depuis 13 ans. Après, j'habite à Bahreïn. Bahreïn, c'est aussi un pays, un royaume qui est à part. Mais je dois vous dire que, aussi étrange que ça puisse paraître, parce que c'est assez inaudible depuis l'Occident, je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'ici, en étant une femme non arabe, non arabophone, non musulmane, française, et française nécessairement avec des origines qui se voient même derrière un mur, et que j'assume parfaitement et dont je suis fière. Donc le procès qui est fait sur les droits des femmes ici, il doit être tout à fait nuancé, parce que si on arrive avec notre grille de lecture, bien évidemment que certaines situations peuvent être étonnantes, au même titre que lorsque l'on part avec leur grille de lecture à eux, quand on lit la vie en Occident, on peut en avoir une appréciation assez curieuse. Donc c'est là où le devoir d'humilité et d'observation sans jugement, tout du moins en acceptant l'intégralité du contexte, parce qu'en réalité, il y a des équilibres qui se créent, va permettre de mieux lire et de mieux comprendre l'environnement dans lequel on se trouve.
Ici, on n'a pas cette impression-là.
Non, ce n'est pas l'impression qui est donnée. Et sans faire de prosélytisme ou quoi que ce soit, de nouveau, comme je vous le disais, je ne suis ni arabe, ni arabophone, ni musulmane. J'ai une approche qui est très objective, me semble-t-il. Et c'est cet éclairage-là que je voudrais apporter. Ce son de cloche qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias classiques. Alors, plutôt que de moi partager mon expérience, je donne le micro à celles et ceux qui pétrissent la vie des affaires au quotidien en étant installés dans un des 6 pays du Golfe depuis au moins 5 ans. Parce que je considère qu'en dessous de 5 ans, on a une vision pas suffisamment lucide de l'environnement dans lequel on se trouve.
Vous êtes seule à faire ce podcast ?
Pour le moment, alors j'ai une executive assistant quand même. Je suis accompagnée pour bien évidemment le studio, le montage. J'y mets quand même beaucoup, beaucoup d'âme et beaucoup de moi-même. Et j'ai bon espoir qu'en fonction du succès qui sera celui de ce projet, l'équipe puisse grandir prochainement. Oui.
Et la périodicité de ce podcast ?
Alors, on est parti sur 2 épisodes par mois. Très probablement avec une longue interview et 2 semaines plus tard, une intervention en solo avec une intervention de ma part sur une analyse ou d'une actualité ou d'un point qui me semble particulièrement saillant ou intéressant. Et puis, de nouveau, en fonction de l'appétit du public, on pourra augmenter la cadence, l'idéal étant d'arriver, pourquoi pas, à un rythme hebdomadaire. Mais chaque chose en son temps.
Comment est financé ce podcast ?
Ce podcast, il va être financé grâce à la confiance d'un certain nombre de partenaires et d'annonceurs. Et ensuite, de nouveau, comme je vous le disais, je devine qu'un certain nombre de services vont être demandés par les personnes qui s'intéressent à la région. Et cette source de revenus pourra effectivement également financer le projet.
Vous avez des partenaires déjà ou vous lancez un appel ?
C'est un appel. J'ai déjà bien évidemment des médias qui me suivent et je remercie le vôtre pour son intérêt. Mais on n'est jamais trop soutenu. Donc que les annonceurs, les sponsors et les partenaires qui voient un intérêt en ce projet n'hésitent absolument pas à me contacter. Je suis joignable notamment par le biais des réseaux sociaux.
Vous avez un site ?
Oui, tout à fait, horizongolf.com. Et puis, je suis aussi tout à fait joignable sur LinkedIn. Si vous tapez Rosiane Umbo Monteverde, envoyez-moi un petit mail et je ne manquerai pas de vous répondre personnellement.